c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo aujourd'hui au sommaire. Dans une poignée de minutes, on va recevoir Gérard Klein, celui que vous avez adoré dans l'Institut ou encore à la radio. Eh bien, vient de publier son livre « Gérard rêve encore » en dédicace un petit peu partout dans la région. Eh bien, justement, Gérard Klein va venir nous en parler, mais évoquer également ses souvenirs radiophoniques ou encore télévisuels dans un court instant. Notre coup de cœur ciné va s'intéresser au film de Clovis Cornillac, ça s'appelle « C'est magnifique », où il partage l'affiche avec Alice Paul et la coécriture avec Lilou Fogli. Justement, Lilou Fogli et Clovis Cornillac seront nos invités exceptionnels en fin d'émission. Elle incarne Marion dans la série de 13e rue, nouvelle série policière que vous pourrez découvrir mercredi sur 13e rue. C'est Louise Monod qui sera notre invitée également. Et puis enfin, on va continuer à parler de La Faute à Rousseau. La série se termine mercredi soir sur France 2. Samira Lachab, que vous avez adoré dans le rôle de Leïla Bédiard dans Demain nous appartient, eh bien viendra nous parler de son rôle dans La Faute à Rousseau, bien évidemment, et dans ce final que l'on va découvrir mercredi sur France 2. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer en ce lundi 30 mai, encore une fois, dans Chute, on écoute la télé. Gérard Klein nous rejoint juste après les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences, eh bien, on va commencer par lundi. Il y avait Vision sur TF1 qui arrive en tête avec 3 331 000 téléspectateurs pour 17,5% de part de marché. Meurtre Paradis arrive deuxième au coude à coude avec 3 142 000 téléspectateurs. Et à la troisième place du podium, Marie au premier regard avec 13,8% de part de marché et 2 638 000 fidèles. Secret d'histoire sur France 3 n'a commencé qu'à 21h40, ce qui explique peut-être ce petit score avec seulement 1 031 000 téléspectateurs. Mardi, Tandem cartonne toujours autant avec quasiment 17% de part de marché et 3 420 000 fidèles. La série arrive devant Koh-Lanta, même si c'est au coude à coude avec 3 410 000 téléspectateurs. Koh-Lanta donc est à la deuxième place. Témoin d'un doute, le film également diffusé sur France 2 arrive à la troisième place, 2 448 000 téléspectateurs. Et Enquête de santé dépasse le million sur France 5 avec 5% de part de marché. Mercredi, La Faute à Rousseau, justement, on va en parler tout à l'heure avec Samira Lachab, arrive en tête avec 2 615 000 téléspectateurs, 12,9% de part de marché. Grey's Anatomy sur TF1 n'arrive que deuxième avec 2 193 000. Top Chef troisième au coude à coude avec 2 116 000 téléspectateurs. Et la surprise est pour TMC qui arrive à la quatrième place du podium avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et c'est quasiment 10% de part de marché et 1 748 000. Et puis jeudi, le rouleau compresseur HPI est en route avec toujours évidemment un très très gros carton d'audience. Après, avec plus de 8 millions de téléspectateurs, la série s'offre évidemment une large place de leader pour cette soirée.
L'invité d'honneur de la semaine.
Et notre invité aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, Gérard Klein, qui est avec nous. Il est en pleine tournée dédicace en ce moment, justement, Gérard, dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, puisque vous pourrez le retrouver par exemple samedi du côté de Sarlat et de Pineuil en Dordogne et en Gironde. Vous pourrez le retrouver le 11 juin du côté de Sainte et Niort, Charente-Maritime de Sèvres. Le 18 juin, il sera dans la Vienne, Jardres et également Poitiers, dans des espaces culturels. Leclerc ne l'arrête plus. Il est notre invité aujourd'hui pour nous parler de ce très beau livre, Gérard rêve encore. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je l'ai bien dit.
Ah, tu l'as parfaitement dit. Et moi, j'ai l'impression, parce que j'ai affaire à un vrai professionnel de radio quand même, qui a fait de la radio très tôt, là. Hein.
Voilà, j'allais dire, quand je serai grand, je ferai de la radio, mais je vois. Ah, j'ai commencé, si je dis la date, tout le monde va rigoler quand même.
Vas-y.
Alors, c'était au siècle dernier, 1965. Tu te rends compte? Je sortais de l'armée du service militaire, et puis par hasard, j'avais rencontré, pendant mes études de médecine, extrêmement courte, un service qui dépendait de la radio, qui s'appelait Inter-Service Route, on répondait au téléphone, bon voilà, je suis parti à l'armée, je suis revenu, et le monsieur qui était patron de ça, ah c'est ça, il y a un truc que je vais te faire écouter après, que je vais vous faire écouter. Le monsieur qui était patron de ce service-là était devenu directeur de la radio, il s'appelait Roland Dordain. Et quand donc je suis rentré de l'armée, puis j'ai dit, monsieur, je peux retravailler, il m'a dit oui, pas de problème, et puis quelques temps après, il m'a dit... Tu veux pas essayer de faire de la radio? Je dis bah ouais. Et donc il a fait fonctionner à l'époque ce qui est France Bleu aujourd'hui, les petits émetteurs comme ça un peu partout. Moi je me suis retrouvé à Cannes, j'ai fait de la radio pendant 2 mois. J'avais des défraiements, j'étais payé, j'avais jamais gagné autant de sous de ma vie. Quand on est rentré à Paris, il m'a dit tu nous as fait rigoler en faisant de la radio. Hein. Tu nous as fait rigoler. Est-ce que tu veux faire ça? Et j'ai dit oui.
Et l'aventure a duré combien de temps?
Ben jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'en fait, la radio, ça a duré 12 années, mais tout s'est enchaîné dans ma vie à cause de ce point de départ de radio. Après, j'ai fait du cinéma, après j'ai fait de la télé, mais ça s'est vraiment enchaîné par hasard, par des rencontres comme ça, où on vous pose la question, en disant, vous voulez faire ça? Et ben, vous réfléchissez après. D'abord, vous dites oui. Puis après, vous réfléchissez trop tard. Et donc, j'ai dit oui.
Pour que les jeunes qui nous écoutent, il faut se rendre compte que tu as commencé à faire de la radio, De Gaulle était au pouvoir.
Je l'ai jamais rencontré.
Nous met un coup.
Je l'ai jamais rencontré. Mais ce que je peux te faire écouter là, c'est un journaliste que j'ai rencontré il y a quelques jours, qui fouille dans les trucs de l'INA. C'est Roland Dordain, le monsieur dont je viens de parler. Il est mort il y a longtemps. Roland Dordain qui dit, nous cherchons de nouveaux animateurs. Et donc, il y a 3 personnes que je vais envoyer, etc., etc.
Là.
Je l'ai là.
Allez, vas-y.
À Cannes, nous faisons en plus une expérience. Vous savez que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux animateurs et nous allons essayer 3 jeunes animateurs à Cannes et il fallait un vieux routier de la présentation comme Jean Richard pour les prendre en main et les conduire vers le micro en direct. Alors ces 3 jeunes animateurs s'appellent Gérard Klein, François Charlotte Mahé et une autre qui a déjà un nom célèbre dans notre maison, Chantal Sadorge, qui est la fille d'Henri Sadorge. Voilà, alors nous allons essayer de voir si ces jeunes-là, dans cette station de vacances, sera un banc d'essai, s'ils peuvent être repris l'année prochaine sur nos antennes, et ça nous servira aussi d'action de prospective, comme disent les économistes.
Il parlait bien, hein, ouais. Quand même. Hein.
Vachement bien, mais il était journaliste avec un J majuscule, hein, que moi je suis glandeur avec un G majuscule. C'est pas la même activité.
Alors après, il y a eu l'Instit, évidemment, formidable aventure qui a duré 12 ans. Je crois que ça a été un véritable tournant et aujourd'hui tout le monde reste nostalgique de cette série, tellement elle a eu un succès incroyable. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes de TNT et pas tout ça. Il y avait des millions de téléspectateurs qui regardaient le mercredi l'Instit.
Eh ouais. Et alors aujourd'hui, quand on parle de l'Instit, en général, je me prends pas pour un acteur. Donc l'acteur, tu vois, normalement, c'est un génie, il est formidable dans l'Instit. Gérard, vous êtes formidable. Donc, faut pas s'attendre à ça. C'est ça qui est bien, c'est que les gens que je vois, enfin des personnes, quoi, ils te disent pas, mais Gérard, vous êtes un acteur extraordinaire dans l'Instit. Les mecs ils te disent, elle est où la moto? Je te jure que c'est vrai.
Et à un moment donné, il a fallu tourner la page quand même.
Bah, tourner la page dans l'Instit, c'est vachement dur parce que tu peux plus faire, honnêtement. C'est une série qui marque, entre guillemets, quoi. Donc, quand on dit Gérard Klein, bah, pour les gens, c'est l'Instit, mais c'est bien. Moi, non, tourner la page, c'est rien, arrêter et puis retourner à la pêche. J'ai 4 filles, 6 petits-enfants, donc. Non, et puis c'est bien de faire des breaks ou d'imaginer. Je rigole parce qu'en fait, le monsieur que j'ai rencontré, le journaliste, il y a pas longtemps, je suis encore avec Dordain, moi, dans la radio, là, qui vient de parler. Je suis pas encore allé jusqu'à l'Instit. Il m'en a envoyé d'autres. Et il m'a envoyé un truc où je suis vraiment ridicule. Je parle avec Johnny Hallyday. C'est une émission de télé qui s'appelait Les Nouveaux Dimanches, avec Raoul Sangla, il y a très longtemps. On a rigolé. Et moi, je parle, j'ai entendu comment je parlais. À Johnny Hallyday, je parle des hippies. Mais je ne dis pas les hippies, je dis les hippies. Et je demande à Johnny Hallyday, mais c'est quoi pour vous les hippies ou les...
Ça, tu l'as aussi?
Je l'ai là-dedans. Ouais.
Allez, on écoute, on va pas résister. Allez.
Car ta mère nous attend à...
qui est là, hein?
C'est ma guitare, oui.
Oui, j'ai commencé à jouer un peu.
Dessus, tout à l'heure?
Non.
Pourquoi j'ai arrêté tout de suite?
Dis-moi. Flore d'amour et d'amitié, c'était la première. Mon fils, qui a fait les paroles de cette chanson?
C'est Ralph Verlaine.
Bien, c'est joli, très joli. C'est joli. Et à propos des fleurs d'amour et d'amitié, tu sais, tu n'ignores pas, puisque tu es sans doute l'un des premiers en France, sinon le premier, à être hip, disons. C'est-à-dire, vêtu comme tu l'es, c'est très joli. Ta veste est très, 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 très.
Ah oui, très joli. Je te promets que la prochaine fois que je reviens de Londres, je t'en ramène.
Bon, tu as
des affaires pas mal, toi, non plus.
Oui, pas mal. Non, on parle un tout petit peu des hippies, si tu veux.
Oui, bien sûr.
Un hippie, c'est quoi, exactement?
Eh bien, un hippie.
Gérard Klein dans ses œuvres, franchement. On est en train de revoir, de revivre un peu les mémoires de la radio et de voir toutes ces personnalités que tu as reçues, mais c'est dingue.
Non, mais t'entends la voix. La voix, alors, Johnny, ah bah oui, à l'époque, j'ai pratiqué toutes les radios, c'est-à-dire France Inter, RTL, Europe 1 et même Radio Monte Carlo. Et c'est vrai que je recevais plein de gens, mais c'était amical. Moi, je suis pas journaliste, je suis rien en fait. Mais
je sens sur beaucoup de points finalement tous les deux.
Bah oui. Ouais, on est content d'être là déjà, tu vois. T'es content de faire ça, ça s'entend dans ta voix ou dans la voix. T'es content, t'es enjoué quoi. Et moi tous les mecs que j'ai reçus, que ça soit Delpech ou les autres, c'était pas des amis intimes. On passait pas des week-ends ensemble. Mais chaque fois qu'on se voyait, on était vraiment contente. Donc on se racontait des conneries, on rigolait quoi. Et c'est vrai que c'était une bonne époque où les gens étaient vraiment très détendus. Cela pétait pas quoi, pour faire très court. Tu vois.
Alors on va parler de Gérard Rêve encore, parce qu'il en reste 3-4 minutes justement pour parler de ce livre que tu dédicaces en ce moment justement dans des espaces culturels Leclerc. Je rappelle le prochain rendez-vous justement, ça sera donc samedi sur Sarlat et sur Pineuil pour ce 4 juin. Gérard, c'est quoi Gérard Rêve encore?
Bah alors c'est une succession de bons moments. Ça commence quand j'étais petit. C'est plutôt un dépliant touristique ou un mode d'emploi. C'est-à-dire que à terme ça devrait être un spectacle. Donc t'es assis dans la salle et puis vous avez le livre sur les genoux comme ça. Et alors je pense que la solution la plus facile, c'est que moi je dise si je suis sur la scène. Bon, et ben je vais lire le livre. Donc je vois le livre. Je commence en disant. Ben quand j'ai quitté Romilly, c'est le patelin où j'ai né en fait. J'avais 7 ans. Alors je suis allé à Montmirail dans la Marne, un autre petit pays. Et si les gens dans la salle écoutent mon histoire, je peux m'arrêter de parler en leur disant ben c'est vrai qu'on n'avait pas de rond. Du coup la gastronomie c'était plutôt boîte de sardines et vache qui rit. Et hop, j'ai fait une petite chanson qui s'appelle Boîte de sardines et vache qui rit que je pourrais chanter. Et puis après revenir au livre en leur disant bon alors après il y a eu tel et tel. C'est des bons moments. J'ai eu la chance, je crois, d'avoir jusqu'à maintenant, j'espère que ça continuera, des coups de peau, des rencontres comme nous, quoi, des rencontres complètement par hasard et qui sont positives, comme on dit. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup, c'est des gens que t'aimes bien, tu te sens proche, tu te sens de la même famille. Et c'est juste pour dire aussi, j'ai pas de message si tu veux, mais dans la vie, tout est possible. Tout est possible, je trouve. Et c'est vrai que si on regarde les autres avec bienveillance, on peut avoir des surprises et des coups de peau, quoi. C'est vrai, hein.
Il y a beaucoup de belles photos aussi, des photos souvenirs de tes tournages, de ta jeunesse, ouais. De tes années radio. Il y a beaucoup de belles photos, justement. Ça a été difficile à choisir, justement, ces photos. Est-ce que tu as dû faire des choix? Il y en a que tu n'as pas pu mettre par manque de place dans le livre, par exemple?
Oui, mais c'était relativement facile dans la mesure où d'abord j'ai pas d'archives, j'ai pas de photos de moi du tout, j'ai conservé très peu de choses parce que c'est pas très très important, et j'ai retrouvé des diapositives. C'était à l'époque des diapos, c'est vachement beau, la qualité était bonne. Il y a une photo où je suis de profil où je fais de la radio, j'ai une espèce de veste marron. C'est le premier jour où je parle dans un micro. Et j'avais la trouille parce que j'étais au bord d'une route. C'était comme un radioguidage. C'est Dordain qui avait inventé ça quand même aussi à l'époque. Et j'étais au bord d'une autoroute pour dire oui, il y a la circulation et tout. C'était après que j'ai commencé à faire de la radio à Cannes, des petites radios. Oh la vache! Et là, Dordain qui me dit dans mon casque, alors Gérard, c'est comment au bord de la route? Et je te jure que c'est vrai. J'ai pas pu parler. Ça a duré une seconde, et après, plus jamais de ma vie, j'ai eu peur devant un micro. C'est un drôle de truc, hein. Et puis après, au contraire, la radio, pour moi, c'est le sport le plus formidable du monde, quoi. C'est le plus marrant, quoi.
Bon, moi je vous invite à découvrir ton livre, Gérard rêve encore, l'occasion unique, c'est de venir à ta rencontre tout simplement. Dans notre belle région, c'est l'occasion puisque tu vas être en tournée jusqu'au moins 18 juin. Tu vas passer en Charente-Maritime, du côté de Saintes, tu vas passer à Niort, tu vas passer à Poitiers, tu vas passer à Jardres, à Pineuil, à Sarlat. Tu vas explorer un peu voilà tous les coins de la région et pas que. Et puis tu reviendras aussi par la suite pour aller peut-être vers le Lot-et-Garonne, pour aller voilà au Pays Basque. Voilà, on t'attend en tout cas. Mais voilà, la porte est grande ouverte, Gérard. Et puis il y a peut-être des projets futurs qui arriveront. On ne sait pas. On suivra ça. On reste en contact.
Ouais. Et on verra. En tout cas, vous êtes formidable. Le garçon qui est en face de moi, il est incroyable. D'abord, il est inusable. Et il a décidé de faire ça, quoi, de faire ce que vous entendez, la radio, les réseaux sociaux, des choses dans des magasins. C'est pour ça que tout est possible dans la vie. Bon, faut avoir la carcasse pour le faire et le cerveau et le désir, mais on va dire que presque tout est possible dans la vie. Mais faut penser ça vraiment, hein, sinon on est victime de Covid, les machins, tout le monde s'emmerde, tout le monde fait la gueule, c'est bon, pas le coup, quoi. J'ai failli dire des gros mots, mais t'as vu, je me suis vachement retenu, hein.
Je vois, effectivement. Bon, merci en tout cas, Gérard, d'avoir été avec nous. Gérard Klein, qu'on retrouve bientôt en dédicace. Toutes les dates sont sur notre Facebook officiel. Chute en écoute la télé. N'hésitez pas à aller les retrouver. Bien évidemment, à très vite et merci.
Non, merci à toi.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute en écoute la télé, votre talk show radio.
Et dans un instant, Samira Lachab, Louise Mono, Clovis Cornillac, Lilou Foggy nous rejoignent dans Chute en écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Marion qui débarque sur 13e rue. Ça sera mercredi soir à 21h. Pendant 3 semaines, vous allez pouvoir suivre les aventures de cette policière, cette commissaire divisionnaire qui vient d'arriver à Lyon avec sa fille adoptive, justement interprétée par Louise Mono, qui est notre invitée. Bonjour ma chère Louise.
Bonjour.
Ça va bien?
Ouais, très bien. Merci de m'accueillir.
Eh ben, écoute, tu sais qu'on est toujours très, très content de t'avoir, surtout avec cette nouvelle série inédite. Et puis, en plus, une série 13e rue. C'est bien que des chaînes, justement, du câble et du satellite puissent se lancer aussi dans de la production de fiction. Et c'est vraiment chouette de voir une série originale débarquer, justement, mercredi. Donc, on voulait la mettre à l'honneur et encore plus quand c'est toi qui as la tête, hein.
Ah, bah, c'est sympa.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet, justement? Louise, raconte-nous.
Bah écoute, ce qui m'a plu, bah j'ai lu, hein, tout simplement, pour commencer. J'ai été vraiment plongée dans ces histoires, dans ces intrigues policières. Et puis j'étais sous le charme de ce personnage de Marion qui résonnait en moi. J'aimais son tempérament, j'aimais la femme qu'elle était, voilà, tout simplement. Ça résonnait en moi. Puis après, bon, s'en est suivi la rencontre avec le réalisateur et tout ça, voilà. Ça n'a fait qu'augmenter mon envie de participer au projet, mais au départ, c'est vraiment la lecture des scénarios. Voilà, le fait que ce soit une adaptation de roman me plaisait également.
Mais oui, il y a près de 14 volumes, t'en as avalé combien?
0, et oui, parce que, en fait, j'ai rencontré d'abord Daniel Thierry, c'est allé assez vite, entre le moment où j'ai eu, le rendez-vous avec le réalisateur, avec Jacques.
Donc t'as pu échanger avec Daniel, du coup?
Oui, du coup, directement. C'est vrai qu'il y avait trop de travail directement sur les scénarios. Trop de versions différentes, trop de travail directement pour que je puisse vraiment avoir le temps de lire. Donc, j'y lirai après, voilà, je ferai à l'inverse.
Est-ce que c'est pas mieux, justement, parce que ça te permet aussi de t'approprier le personnage, peut-être, au lieu de t'en faire peut-être une image en lisant le livre avant. Il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui font ça, justement, qui tournent et qui lisent après, justement, pour pas s'influencer.
Alors c'est tout à fait pareil que si ça avait été, par exemple, quand j'avais fait l'adaptation de Broadchurch. Effectivement, je n'avais pas vu Broadchurch avant, parce que là, typiquement, c'était déjà incarné par une autre actrice, et ça aurait été difficile de m'en détacher. Mais là, quand c'est un roman, tu t'en fais quand même l'image que tu veux quand tu le lis.
Bien
sûr. Elle est assez bien retranscrite par rapport au roman dans le scénario. Donc, peut-être que ça n'aurait pas été le souci. Mais peut-être j'aurais été très frustrée au niveau du nombre de scènes qui ne sont plus dans le scénario, qui étaient dans le roman, parce que c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus développé, tout le rapport humain, voilà, que moi j'adore et qu'on ne peut pas forcément laisser au final.
Bien sûr.
Parce que ça va très vite, le tournage, et que les épisodes qui sont assez rapides, finalement, 45 minutes, on peut pas tout mettre, hein, c'est assez peu, au final. Et je pense que j'aurais été très, très frustrée, parce que déjà, entre les premières versions de scénario que j'ai lues, et finalement, il en est resté parce que voilà, on est obligé de faire des choix, de temps, de tout, quoi. C'était déjà parfois des petits deuils à faire, donc je pense que ça aurait été douloureux si j'avais lu des romans. Mais c'est sûr que sur la backstory de Marion et qui allait profondément, ça nourrit de lire les romans. Mais pour ça, j'avais Daniel, c'était encore mieux. Voilà, je pouvais directement poser mes questions à Daniel.
Alors, tu arrives à Lyon, des affaires assez sombres hein, que tu dois résoudre et tu dois concilier en plus ta vie de flic et puis de mère célibataire en même temps. Comment tu la définirais, toi, Marion, justement?
C'est une femme moderne. J'ai l'impression que voilà, c'est une femme qui veut assurer sur tous les fronts, quoi, au travail, comme à la maison avec sa fille. Ses amours sont un peu compliqués, vous verrez. Mais bon, je pense que voilà, c'est aussi une femme qui tombe amoureuse. Enfin, c'est une vraie femme, quoi. En fait, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'elle est très réelle, très concrète. Elle est pas, on fantasme pas un flic ou. Pour moi, c'est possible de l'incarner. J'avais pas l'impression qu'il fallait que je joue. Un peu garçon manqué pour l'incarner, ni même que, enfin voilà, puis j'aimais son rapport avec sa fille, enfin tout ce qui fait qu'elle est très humaine en fait, et même avec son équipe, elle est aujourd'hui apparemment les commissaires visionnaires, c'est pas forcément ceux qui se déplacent le plus, ils sont beaucoup dans les bureaux, et Marion c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui lâche rien, et tout ça, ça m'a plu chez elle.
Qui t'a poussé des coups de gueule quand même.
Ah oui, oui.
Elle a la franche du collier quand même, Marion. Hein.
Ouais, tout à fait. J'aime bien moi cette authenticité. Elle est vraie et elle est très, en même temps sensible, elle est très humaine quoi. Elle est jusqu'au bout, elle ne sent rien.
Combien de temps vous avez eu pour tourner justement les 6 fois 45 minutes qu'on va voir? Est-ce que par rapport à une fiction sur France Télévisions, voilà, est-ce qu'il faut aller encore plus vite parce que budgétairement c'est plus difficile? Comment ça se passe?
Ah oui, c'est beaucoup plus rapide. On a tourné en 40 jours, donc c'est extrêmement rapide.
Ah oui, parce qu'on est plus sur 60 jours de tournage en 6 fois 45 minutes.
Ouais,
aujourd'hui.
Non, moi j'avais jamais tourné aussi vite, mais c'est pas inintéressant parce que ouais, un rythme à tenir, mais qui quelque part qui va bien avec la série qu'on tourne aussi, avec les enquêtes, tout va vite, ça va vite, hein, quand même toujours un stress, quelque chose de voilà qui est rapide aussi dans la série au niveau des enquêtes et tout. Donc finalement, cette rapidité aussi qui était obligée d'être là pour le tournage peut servir. Voilà. Et puis là où on a eu de la chance, on s'est tous eu un peu un vent en amont pour la préparation, ce qui a fait que quand on est arrivé sur le premier jour de tournage, on se connaissait déjà. On se découvrait pas avec les autres comédiens, le réalisateur, avec certains comédiens oui. Bien entendu, mais avec eux vraiment qui incarnent les personnages principaux au sein de la brigade. C'était chouette d'avoir pu faire ce travail en amont ensemble.
Oui, ça a permis d'être plus efficace du coup après.
Oui, ça gagne du temps et dans les rapports, c'est plus tout de suite vrai. On se cherche pas au début. Il y a déjà, évidemment, à la fin, il y a quand même une différence. Parce qu'on a passé 40 jours de tournage ensemble, mais dès le départ, on se découvrait pas. C'était chouette, ça.
Est-ce que ces 6 fois 45 minutes ont une fin ouverte? Est-ce qu'on peut espérer voir une suite si ça fonctionne? Parce que vu que la saga du commissaire Marion compte 14 volumes en roman, on peut imaginer qu'il peut y avoir de nombreux épisodes par la suite si la série fonctionne.
Oui, tout à fait. Il y a plein de romans. Et puis là, c'est vraiment des enquêtes qui à chaque fois sont fermées, enfin qui terminent. En fait, une enquête, c'est 2 épisodes. Donc voilà. Là, on a fini l'épisode et c'est complètement ouvert. Et c'est vrai qu'il y aurait plein de choses encore de possibles. Et notamment sur, j'avais évoqué avec Jacques Lillière, le réalisateur, il disait ouais, ce qui serait pas intéressant, c'est de retourner vraiment dans son passé. Il y a plein de choses. J'ai quand même lu des parties du roman, mais après, j'avais finalement pas assez le temps. C'est frustrant,
mais oui.
Il y avait des choses, il y a plein de choses à développer qui peuvent être super, donc oui, ça c'est possible.
Bon, pour terminer, est-ce qu'il y a une scène qui était particulièrement difficile pour toi ou pas?
J'ai pas mal de scènes de baston quand même, hein. C'est un peu une première pour moi, et il faut avoir une appréhension, mais finalement, comme il y avait ce rythme effréné là, justement, où on allait très vite, ça enlève un peu de stress, je trouve, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Ce qui était très intéressant, ce qui me plaisait dans ce personnage, c'est de passer justement de scènes de commissariat à des scènes de baston, à une scène avec ma fille, très très intime, après une scène avec un amant. Toutes ces facettes-là du personnage qui était jouissive à jouer. Et du coup, j'avais beaucoup de plaisir à chaque fois. Ouais, j'étais pas toujours dans le même registre. Quoi.
Ouais, t'étais pas toujours dans le registre de la flic. Il y avait aussi la
même
femme.
Même si, on exactement. Est dans les enquêtes, mais il y a tout ce côté humain et moi, c'est ce que j'aime avant tout.
Bien sûr.
Donc,
bah oui.
Voilà.
Et c'est comme ça, ça se permet aussi de s'attacher au personnage, encore plus pour le téléspectateur.
Pour le téléspectateur et puis pour moi d'avoir envie de l'incarner parce que si c'était que pour jouer des scènes de commissariat, je pourrais être encore mieux.
Bon, en tout cas, on se retrouve donc mercredi soir, 21h sur 13e rue, pour les 2 premiers épisodes de Marion, la nouvelle série avec Louise Monod, qui est accompagnée de Bertrand Nadler, Gwendoline Courvenec et plein d'autres qui sont avec toi dans cette série à découvrir. Merci beaucoup, Louise, d'avoir été avec nous.
Merci à toi, alors merci. À bientôt.
Et on va s'écouter tout de suite la bande-annonce, mercredi sur 13e rue.
Qu'est-ce que t'as foutu, Marion? Appelle-moi tout de suite.
Vous ne pouvez pas continuer comme ça.
Je veux qu'on mette le turbo et qu'on sorte cette affaire. Si vous, vous trouvez pas, moi, je vais m'en charger.
Tu n'es pas en charge de l'enquête. C'est clair.
Coup de Cœur Télé consacré à la faute à Rousseau qui sera diffusé mercredi sur France 2. C'est la dernière soirée pour découvrir les deux derniers épisodes et quel bonheur de la retrouver. Elle a une salle à son nom à l'hôpital de Sète. Hein. Oui, quasiment, la salle Aïla Bédiard. Cause qu'on a pleuré quand elle a quitté Demain nous appartient, mais pour de tellement beaux projets. Oui, elle est avec nous, Samira Lachab. Comment tu vas?
Super bien, plaisir de t'entendre. Non, ça va.
Bon, moi aussi, ça me fait super plaisir de t'entendre. Je voulais absolument t'avoir, effectivement, pour la faute à Rousseau. On t'a vu dans Digang, il y a aussi quelques jours, maintenant, quelques semaines, avec un très joli rôle aussi. Et puis là, la faute à Rousseau, écoute, ça fait quand même maintenant 2 semaines que vous tournez autour avec Rousseau. Qu'est-ce qui va se passer? Mais franchement, alors que là, ça semble se profiler du mieux possible avec Cédric. Alors, on peut dire qu'avec Stéphanie, Rousseau, il a raté le coche quand même, hein.
Ben, il a raté le coche, il était complètement paumé. Je pense que à l'issue de la première saison, il a réalisé que vous passez à côté de Stéphanie et de leur histoire. Et du coup, on découvre en début de deuxième saison que, en la revoyant, il est complètement déstabilisé et il se dit c'est elle quoi. Mais entre temps, elle a rencontré quelqu'un, le fameux Cédric.
Joué par Alexis Lauré, qu'on aime beaucoup aussi.
Exactement, chouette partenaire, hein, voilà. Et en fait, ben, il est prof aussi, donc elle l'a rencontré au lycée forcément et elle essaye de construire une relation entre guillemets normale. De ce qu'elle n'avait pas vécu avec Benjamin, tu vois. Donc Cédric, c'est le candidat idéal, je dirais, pour qu'elle retrouve une stabilité de couple. Enfin, elle idéalisait ça et elle l'a à travers cette histoire avec Cédric.
Mais est-elle complètement heureuse?
Mais non.
Et oui, est-elle complètement heureuse? C'est ce qu'on va découvrir.
La folie de Benjamin lui manque et quand elle le voit, elle craque. Sa maladresse, sa tendresse, sa sensibilité, tout ça. C'est un éternel ado, Benjamin. Malgré que ce soit un prof de philo et que c'est un éternel ado et elle craque complètement. Et Cédric, c'est vrai que c'est le candidat idéal dans le sens où il est hyper rassurant et en même temps, il manque de folie. Voilà pour Stéphanie. Manque de folie.
Il y a la folie et la raison d'un côté, là, hein, on va dire, hein, un peu là.
Exactement. Donc Cédric, c'est le côté pragmatique, le côté très où on est rassuré. Et à côté, la Benjamin, elles font à chaque fois qu'elle le revoit, hein, même si parfois elle ne le montre pas.
Alors dis-moi Samira, comment tu la définirais toi, Stéphanie, pour ceux qui n'auraient jamais vu La Faute à Rousseau? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aux auditeurs qui n'auraient jamais vu la série?
Stéphanie, c'est une fille qui rêve beaucoup, qui est une vraie gentille, je pense. C'est une maman solo, faut le savoir dans l'histoire. Elle élève son enfant seule, même si elle a une garde partagée avec le papa. C'est une maman solo. Elle est prof d'anglais, elle est pétillante, elle a la joie de vivre. On le devine à travers ses vêtements. Elle est toujours pleine de couleurs. Et elle est rêveuse, quoi. Et c'est pour ça que quand elle tombe sur Benjamin, elle craque sur lui parce qu'il est aussi sensible qu'elle. Ouais, elle craque vraiment pour sa personnalité, quoi.
Qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas fait pour toi, là? Il s'aperçoit pas vraiment des signaux qu'elle lui a envoyés quand même plusieurs fois.
Il a peur de l'engagement, tout simplement.
Ouais.
Il a peur de l'engagement.
Ça se ressent.
Vraiment. Mais oui, il a peur de l'engagement. Stéphanie recherche une stabilité. C'est pour ça qu'elle se tourne vers Cédric. Et à un moment, elle se dit, c'est le profil parfait. Et puis il est charmant, gentil, gentleman, il a envie de rencontrer mon fils, il a envie de s'immiscer un peu dans cette vie privée, il veut un peu faire partie de cette vie familiale, prêt à s'occuper de son enfant, prêt à habiter avec moi, prêt à tout. Donc pour elle, c'est le profil idéal, mais quand le cœur n'y est pas, le cœur n'y est pas, ça ne s'explique pas. Et je pense que Benjamin et Stéphanie, dès la première image, on sent qu'il y a un attachement dès le départ en fait. Il y a un vrai coup de cœur.
En tout cas, ça va être le dénouement dans ces 2 épisodes. On va voir, vont-ils se rapprocher? Que va-t-il se passer? Voilà, on va découvrir ça mercredi sur France 2. Alors, la particularité quand même de La Faute à Rousseau, c'est que vous tournez avec toute une troupe de jeunes comédiens, tous aussi talentueux les uns que les autres. Grégoire Paturel, Louis Duneton, qu'on a pu voir dans Plus belle la vie, mais aussi Dembo Camelo qui a tourné dans Demain nous appartient, dans la même série que toi pour le coup aussi. Et pas que, il y a aussi, elle est incroyable, Andrea Furé, qui avait tourné dans une très belle fiction pour TF1, il et elle. Franchement, vous êtes super bien entouré côté jeune comédien.
Ah, c'est un super casting. Et en plus, moi qui ai eu la chance de les rencontrer, parce que j'ai pas énormément de séquences avec eux, j'ai pas beaucoup de séquences au lycée.
De prof,
ouais. Je parle l'anglais, mais on ne sait pas si je le parle. Mais ça dit, j'ai pu les croiser en loge et en dehors. Franchement, c'est des gamins au top et avec beaucoup de talent surtout, parce que j'ai assisté à certaines séquences. Et Andrea est très petit coup de cœur pour elle, vraiment.
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu retiendras de cette saison, un souvenir particulier, une scène particulière qui restera ancrée pour toi?
Quand j'essaie de faire du patin, je crois que ça faisait 15 ans que je n'avais pas fait. Bah, je vais prendre un cours de patin. C'est assez drôle parce que je retrouvais un peu mon adolescence, quoi. C'est quoi, hein? C'est des patins, hein? C'est rien. Mais dans l'histoire, Benjamin lui offre des vieux patins et elle s'y remet et c'est assez drôle. Assez drôle à jouer. Vraiment.
On voit qu'elle essaye, oui. T'as choisi le bon mot.
Elle essaye avec le petit casque, le vieux casque, tu sais. C'est un petit revival. Mais c'était une chouette séquence. J'ai beaucoup aimé.
Bon, s'il y a saison 3, t'es partante?
Bah, bien sûr.
Ah oui.
Je te dis un grand oui, bien sûr. Avec cette équipe-là, oui, je suis les yeux fermés, bien évidemment.
Bon. Et pour la suite, 2022, est-ce qu'on va te voir aussi dans d'autres choses? Maintenant, quand Candy Gang a été diffusé à Fota Rosso, arrive à son terme, est-ce qu'on va te voir prochainement, dans les semaines qui viennent?
Oui, 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 j'ai tourné un meurtre à Figeac avec Stéphane Plaza en partenaire de jeu.
Ouais.
J'ai tourné ça au mois de septembre. Ça ne devrait pas tarder à sortir. Et là, je sors d'un tournage, c'est un meurtre en Champagne avec Stéphane Blancafort qui joue dans Tandem et que j'adore parce que j'avais déjà travaillé avec lui.
Et qui a fait son retour mardi dernier sur France 3 d'ailleurs, on va le dire.
Ouais.
Exactement.
Génial. Voilà, j'avais déjà travaillé avec lui sur Candide Renoir au tout début et j'ai eu plaisir à le retrouver sur un plateau avec sa bonhomie, sa gentillesse et sa bienveillance. Vraiment. Donc c'était chouette. Un chouette tournage.
Bon. Et puis un dernier petit mot parce que les fans, évidemment, t'ont tellement aimé dans ce rôle de Laïla Bédiar. C'est un rôle qui va t'avoir marqué à vie. Demain nous appartient quand même aussi,
oui,
cette série.
Ouais, je voulais vraiment les remercier parce que à ce jour, j'ai encore énormément de messages où les gens encore m'écrivent et me disent et m'expliquent bien que je leur manque à l'image. Demain nous appartient et je leur dis merci de continuer encore à me suivre même si je suis partie de cette quotidienne. Mais j'ai encore énormément de messages, si tu savais Alain, mais gentils quoi, gentils. Donc non, j'ai plein de jolis retours encore. Apparemment, je manque encore, mais je pense que j'ai laissé un joli souvenir.
C'est clair.
À ces gens qui m'écrivent et à qui je manque et en tout cas voilà, je dis au quotidien, j'ai toujours un petit clin d'œil en disant voilà, Laïla nous manque. J'espère que vous allez bien. Donc c'est chouette.
Puis la descendance est encore là. On compte sur nous.
Ouais. Mathilde, Kenza est encore là. Voilà. Donc au cœur. Ouais. Non. C'est génial. Je suis très contente qu'elle soit restée et la famille Bédiar existe encore et ça c'est chouette. C'est
exactement.
Chouette. Puis ils parlent de moi encore de temps en temps. Hein,
mais oui.
J'ai ma petite plaque à l'hôpital. Hein.
Mais oui. C'est ce que j'ai dit. Pour ça que j'ai commencé par là. Que t'avais ta plaque à l'hôpital de Sète quand même. Hein, franchement.
Ta salle
de repos carrément.
Exactement. Donc en fait, je reste quoi qu'il arrive. Voilà, on parle de moi de temps en temps et c'est chouette et c'est des jolis clins d'œil. Mais en tout cas, je voulais vraiment remercier tous ceux qui continuent à m'écrire et voilà, à m'encourager pour mes nouveaux projets et voilà. Je voulais juste leur dire encore mille merci parce que je les lis et je suis très touchée à chaque fois.
Et
voilà.
Ben, écoute, voilà, tu es dans le cœur des fans et dans le nôtre. Voilà, on t'embrasse très fort.
Chouette.
Et puis merci infiniment d'avoir été avec nous, Samira. La Fota Rosso, le final, c'est mercredi. Va-t-elle retomber dans les bras de Benjamin ou va-t-elle choisir la sécurité avec Cédric? C'est ce que vous verrez mercredi à 21h10 sur France 2, juste après un si grand soleil. Merci beaucoup. Et on te dit à très bientôt, Samira.
À très bientôt, gros bisous.
Je m'appelle Benjamin Rousseau, je suis votre prof de philo.
Passe du côté obscur.
Monsieur, c'est quoi votre délire en ce moment là? Vous êtes chelou.
Eh bien, c'est un test réalisé sur animal vivant. Vous. Je te fais marraine de Chichi. Il faut le nourrir à leur fils, sinon il crève.
Tout ça pour nous apprendre la responsabilité. Non mais nous prend pour des quiches là.
Oh putain, ça va pas non?
Indiscrétion, scoop, news, tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia de cette semaine, après l'annonce du départ surprise d'Alessandra Sublet, qui a décidé de quitter la télé pour se consacrer à son nouveau métier d'actrice, il y avait une place à prendre sur la une face à Nicolas Canteloup la saison prochaine pour ses Canteloup. Un rendez-vous important, car ce sont plusieurs millions de téléspectateurs qui se retrouvent chaque soir devant cette émission phare de la une. TF1 qui a donc visiblement de choisir une femme pour ce nouveau duo, puisque selon nos confrères de TV Mag, c'est Hélène Manarino qui devrait succéder à Alessandra Sublet à l'animation de C'est quand tout à la rentrée. Après un passage sur C8, elle a rejoint le groupe TF1 en 2017 et a présenté le magazine Appel d'urgence sur TFX avant de rejoindre depuis septembre 2021 la matinale de LCI qu'elle anime tous les matins aux côtés de Stéphane Etcheverry. Aurélien Vic et Lola Devers tournent dans le village des Endormis pour France 3 en tournage depuis la semaine dernière dans la région lilloise. Un unitaire titré Le village des Endormis sera diffusé sur France 3 tandis qu'un meurtrier Lucas s'évade au cours d'un transfert de prison. Un étrange phénomène bouleverse soudain la vie d'un village. Des habitants tombent les uns après les autres dans un sommeil prolongé. C'est dans ce climat de panique et d'angoisse que Mathieu, capitaine de gendarmerie au bord du divorce, doit retrouver Lucas et enquêter sur une série de crimes. Avec l'aide d'Élise, médecin spécialiste du sommeil venu en renfort à l'hôpital, il va découvrir l'origine de ces mystérieux endormissements qui n'est pas sans lien avec les meurtres sur lesquels il enquête. Au casting, on y retrouvera également Flore Bonaventura, Stéphane Fraisse ou encore François David Cardonnel. Et puis un autre arrêt, celui de Julien Courbet qui annonce l'arrêt de l'émission Appel à témoins qu'il co-présentait avec Nathalie Renoux sur M6. Une émission qui s'arrête face à la difficulté qu'il avait de pouvoir faire avancer non seulement les enquêtes et notamment les secrets d'instruction qui aura eu raison donc de cette émission. On va tout de suite passer à notre coup de cœur ciné de la semaine, c'est Lilou Fogli et Clovis Cornillac qui nous rejoignent dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné, on va la consacrer au film C'est magnifique, le troisième film de Clovis Cornillac, que moi j'ai eu la chance de voir il y a maintenant quelques mois au Festival d'Angoulême. Clovis est avec nous, bonjour Clovis.
Bonjour à tous.
Et il n'est pas venu tout seul. Et oui, Lilou Fogli est avec nous aussi, qui a coécrit le film aussi, et qui joue aussi bien sûr dedans. Bonjour Lilou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux, ce premier coup de cœur. Voilà, je voulais vous le décerner parce que on a vu un véritable... conte, un film très poétique. Alors, pour être honnête avec toi, Clovis, parce qu'on se connaît quand même bien maintenant, j'avais une confiance absolue. J'étais voir le film vraiment tranquille en me disant, on va voir un beau film. Et j'ai pas été déçu. On peut planter le décor déjà ensemble. On va raconter cette histoire de cet homme en pleine montagne qui voit ses parents mourir quasiment sous ses yeux.
Oui, alors, c'est un peu dramatique, mais effectivement, ça c'est les premières images du film. En gros, sans dévoiler, parce que moi j'aime bien, je sais pas vous, mais moi j'aime bien aller au cinéma et pas tout savoir, mais on est effectivement dans une dimension de conte, hein. Donc c'est un personnage qui a été élevé dans la nature par des parents, qui va découvrir des parents adoptifs, et il va se retrouver tout seul parce que ses parents meurent au tout début du film. C'est une quête d'identité où il a une lettre où on lui dit qu'il a été déposé devant une porte et que du coup... il a été adopté et qu'il y a un appartement à Lyon qui lui revient. Il est jamais allé en ville, il connaît pas la ville, il connaît pas les codes sociaux, il connaît pas vraiment une page blanche. C'est une sorte de pureté. Il est pas bête, il est pas stupide, mais il n'a aucun code et il va être confronté d'abord à la société, à la nôtre, à l'absurdité dans laquelle on vit. Et puis en même temps, il va rencontrer une femme qui elle est vraiment issue de la société, qui est vraiment elle dans des périodes de crise, de difficulté, et ces deux personnes-là vont s'aider l'une l'autre, et du coup c'est une aventure à travers des personnages et des rôles autour qui sont haut en couleur, rigolos, fantasques, et il y a en plus une dimension fantastique dans le film, puisque ce personnage-là va commencer à perdre ses couleurs. C'est des films assez riches, assez, joyeux, lumineux, pas trop bêtes et surtout très bienveillants, vraiment à l'exact opposé du cynisme ambiant. C'est histoire d'ouvrir un peu les cœurs, quoi.
Moi, je trouve que tout le monde va s'y retrouver. On peut vraiment y aller en famille. Les enfants vont s'y retrouver. Ils vont trouver cette histoire vraiment chouette aussi. Et alors, le personnage de Lilou, lui, il arrive à un moment où, évidemment, dans cette quête de retrouver sa famille, il pense, en tout cas, retrouver sa mère plusieurs fois. Et Lilou va jouer, la fille de ce qu'il pense peut-être être sa mère. Ça, on le verra. Vous le verrez en allant voir le film. Et Lilou, c'est là que tu arrives.
Oui, alors moi, c'est un personnage un peu renfermé, qui est sous la coupe de son mari, qui a oublié de vivre et qui petit à petit au fil de ses rencontres avec ces personnages là va s'ouvrir et va pouvoir s'épanouir.
Alors en bateau, hein, il y va. Hein.
En bateau, il y va. Il peut être sacrément méchant.
C'est clair. Elle est un peu sous la coupe de ce mari policier, justement. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va céder. Alors comment est venue l'idée de ces magnifiques ? Parce que vous l'avez écrit à six mains, je crois. Vous êtes trois à avoir écrit ce film. Mais comment est venue l'idée au départ ?
En fait, dans cette association, qui était aussi la même que sur le premier long métrage que j'avais fait, qui s'appelait Un peu beaucoup aveuglément, les rôles sont très différents. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis au scénario, mais moi, j'écris pas. Moi, je ne sais pas écrire, donc c'est pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment, on va dire qu'en lead, Lilou elle s'investit à fond, elle écrit à fond, elle est à fond là-dedans. Tristan Schulman, qui a coécrit, ils font un binôme tous les deux comme ça, et qui se répond beaucoup. Ils sont très efficaces et très talentueux. Et moi, j'ai des désirata. Je voulais faire un film, je leur ai dit, j'ai envie de faire un film sur la quête d'identité. Tout ça, on était parti sur quelque chose de très différent. Il y a des échos à ça. La bienveillance, un personnage qui n'a pas d'identité, qui recherche... Voilà. Et puis, ils ont eu des idées magnifiques, notamment la perte des couleurs, ces choses-là et tout. Et quand ils élaborent et ils travaillent, moi je viens, je sais pas, une fois par mois, je dis n'importe quoi parce que c'est pas évidemment de cette régularité-là. Je dis ah ouais, ça c'est vachement bien, ça c'est bien, on pourrait faire ceci, faire cela, et puis ça les inspire à faire. Et donc eux écrivent vraiment. Et moi, je suis pas le laborieux de l'affaire. Je cherche mon film, en fait. Je cherche le film, et eux, ils sont dans le labeur de l'écriture, d'écrire un scénario. Donc, je dirais que c'est vraiment un binôme plus un. Il y a le gars qui veut faire son film, et puis eux, ils sont au travail. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on a écrit, justement, et qu'on voit en image, vous le tournez, donc là vous voyez évidemment les rushs derrière, puisqu'en plus c'est Clovis qui le réalise, mais qu'est-ce qu'on ressent quand vous le voyez monter, terminer avec les musiques, et vous voyez cette histoire que vous avez imaginée, écrite, défiler comme ça sous vos yeux? Il doit y avoir un ressenti particulier quand même.
Alors c'est toujours extrêmement jouissif de voir ces mots à l'écran qui prennent vie avec des acteurs dirigés, donc ça c'est la première chose. En revanche, la deuxième, c'est vrai que quand on découvre le film, je le découvre pas de la même manière qu'un public lambda, et je suis plus dans le détail à regarder, donc j'ai besoin d'une deuxième projection pour vraiment voir le film.
L'apprécier.
Ouais, et puis de m'en détacher et tout ça. Mais une fois qu'on écrit en tant que scénariste, c'est vrai que quand le réalisateur est content et qu'il a son film, en l'occurrence Clovis, après il nous appartient plus et c'est lui qui est maître à bord et il va faire sa réécriture avec la réalisation de toute façon aussi. Donc dans ce cas précis sur C'est Magnifique, j'ai été hyper heureuse de voir que ça a été sublimé. Il est allé plus loin encore que ce qu'il avait décrit, donc ben c'est extrêmement agréable, parce que c'est pas toujours le cas.
L'image est très très belle en plus, moi je vous conseille vraiment, c'est magnifique, ça porte bien son nom, c'est mercredi au cinéma, on écoute tout de suite la bande-annonce, et on va arriver sur le personnage d'Anna, juste après on va parler un peu d'Alice Paul aussi, à tout de suite.
Les parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur, déjà vais aller nulle part.
Tu as été abandonné dans ton couffin sur le palier de notre porte.
Ah bon? Qui je suis?
Si vous aussi, vous voulez savoir qui êtes-vous, vous posez les bonnes questions.
Vous avez jamais été salarié? Jamais payé d'impôts? Officiellement, vous n'existez pas.
Et la suite de notre spécial, c'est magnifique, c'est juste après cette petite pause. À tout de suite avec Lilou Fogli et Clovis Cornillac.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
C'est magnifique, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine, ça sort mercredi, c'est le troisième film de Clovis Cornillac, coécrit notamment avec Lilou Fogli aussi qui est avec nous. On va parler du personnage d'Anna, qui apporte énormément de choses justement à ton personnage Clovis. Alice Paul s'est imposée tout de suite un petit peu dans votre idée, à tous les deux, dans ce personnage que vous écriviez.
C'est venu jamais pendant l'écriture. Moi, je pense jamais aux acteurs pendant l'écriture. Lilou non plus, je pense, ni Tristan. L'idée est pas d'écrire pour des gens. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Un film a des process. Une fois que t'as ton histoire, tu sais ce que tu veux raconter et dans quelle énergie tu vas faire le film. Les choses commencent à se dessiner. Et effectivement, la période du casting est une période très particulière sur laquelle tu commences à imaginer des chairs, des peaux, des parlers, des phrases, des choses comme ça, et sur lesquelles, voilà. Et Alice est arrivée, oui, rapidement à ce moment-là, parce que moi j'avais la recherche de me dire, je voulais quelqu'un auquel on puisse se projeter et s'identifier. Et qu'en même temps, il y ait du cinéma. Donc le cinéma est glamour, il y a toujours quelque chose d'un peu plus joli, d'un peu plus beau que dans notre quotidien. Je trouve qu'Alice, elle avait cette la fraîcheur que le personnage devait avoir dans la seconde partie du film, de quelqu'un qui recroît à l'existence, parce qu'elle commence en colère, c'est une fille en colère, c'est une ancienne alcoolique, c'est quelqu'un qui a des poids, qui a perdu la garde de sa gamine, tout ça, donc il y a... Et en même temps, on est dans une dimension de conte, de fable, où il faut du swing. Et il fallait quelqu'un qui ait aussi cette espèce... Elle a une candeur, Alice. Et c'était intéressant de réunir deux personnes avec deux trajectoires différentes, mais des candeurs qui, finalement, à un endroit, se rejoignent. Donc, c'est venu assez vite. Et pour le coup, elle a dit oui tout de suite. Donc, c'était une bonne nouvelle. Franchement, de temps en temps, ça se passe pas comme ça. Alors, tu réfléchis autrement, tu cherches... Mais là, ça a été assez, assez simple, assez évident, c'était assez doux. Tout ça était assez doux.
Alors, plus doux que la vitre.
Plus doux que la vitre, absolument, plus doux que la vitre.
Vous comprendrez quand vous verrez le film, mais la vitre n'avait pas l'air très très douce pour toi, Clovis. Je suis sûr que tu étais derrière la caméra, Lilou, non? à ce moment-là.
C'est moi qui l'ai placée là, cette vitre. Je voulais vraiment que Clovis se prenne un mur. Non, je plaisante. Non.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'on pourrait très bien imaginer aujourd'hui ce personnage dans la vraie vie, quelqu'un qui n'est jamais sorti de sa montagne, pourquoi pas, et débarquer en ville comme ça. Alors, évidemment, c'est pas un Indien dans la ville non plus, mais débarquer, voilà, qui a pas les codes, qui sait pas comment marchent effectivement les services sociaux, qui sait pas comment fonctionne le monde, tout simplement, parce qu'il est resté dans ses montagnes jusqu'à l'âge de ses 40 ans. Et c'est vrai qu'à la fois, non seulement c'est un conte, il y a du fantastique, mais on peut très bien s'identifier finalement à ce personnage. C'est ça aussi la magie de ce que vous avez écrit tous les deux.
C'est-à-dire, je pense qu'il y a une chose qui est, moi, qui m'a beaucoup marqué, voilà, qui m'a enchanté et ouvert aussi au cinéma, c'est Tati. Et par exemple, les personnages de Tati, il ne parle jamais, il parle très peu, il est en décalage avec l'absurdité du monde dans lequel on vit. Mais comme cette absurdité, c'est notre quotidien, nous on s'en rend plus compte que les choses sont folles. On vit de manière complètement folle. Et quand il y a une candeur, une bienveillance qui arrive au milieu de ça, d'abord on se fout de sa gueule parce qu'on se dit bah il comprend rien et machin, puis finalement il n'est que le révélateur de l'absurdité dans laquelle on vit. C'est-à-dire que normalement on doit passer exactement dans le regard de Pierre assez rapidement, parce qu'on se dit finalement c'est nous qui sommes fous, quoi. On est fous, c'est incohérent. On te donne un chèque, on te dit que t'as de l'argent, tu peux pas manger. On te dit que tu n'existes pas parce que t'as pas un numéro de sécurité sociale. On te dit, c'est-à-dire que tout ça est absurde. C'est l'inverse de la vie, c'est l'inverse des plantes, c'est l'inverse du miel, c'est l'inverse des choses qui sont absolument concrètes. Et la bienveillance qui passe pour quelque chose systématiquement de bêtifiant, de naïf et tout, à ce moment-là, si on commençait par là déjà. Avant de se dire plus intelligent que les bienveillants, essayons de l'être. Et puis petit à petit, après, on peut avoir des réflexions sans être forcément dans un cynisme aigu, acide. Voilà. Donc il a cette fraîcheur, cet effet miroir à un moment, et ça nous renvoie à nous, je trouve. Donc c'est là où je pense que le film a quelque chose de très frais. C'est qu'il n'est pas donneur de leçons, il est juste à regarder l'autre, à essayer d'être ensemble, à caresser la terre et à être sur des choses aussi simples, aussi directes que ça.
Il y a un décor qui m'a bluffé, moi. Alors, je sais pas si c'est une grotte ou si elle existe vraiment, si ça a été reconstitué en studio, enfin j'en sais rien. Mais alors ce décor avec cette grotte aux fleurs là, mais elle est juste, mais sublime.
Oui, ça faisait partie de la magie de ce personnage. On voulait vraiment, voilà, j'avais une envie graphique de magie. Ce personnage perd ses couleurs. Il a constitué un endroit qui a à voir avec évidemment le conte. On imagine très bien. Il était une fois une grotte pleine de fleurs avec un. Donc c'est quelque chose qui était important à l'image, qu'on puisse être émerveillé comme les personnages sont émerveillés quand ils voient cette grotte, quoi. Qui est aussi après plein de choses, hein, puisque voilà, on va pas tout raconter.
Elle existe vraiment là ou pas? Ou on laisse la magie?
Non, il faut la chercher, cherchez-la, vous la trouverez.
Et ben voilà, le mot est dit. Lis-nous un mot aussi sur la comédienne qui joue ta maman. Une immense comédienne qu'on adore évidemment tous.
Myriam Boyer, l'excellente Myriam Boyer. Non, c'était un honneur et un plaisir de travailler avec cette comédienne qui apporte une douceur, quelque chose de un peu de magique, parce que elle est dans son monde et elle aussi elle a un peu un pendant de Pierre aussi du rôle de Clovis, parce que elle est décalée et finalement elle est centrée sur les choses qui sont importantes.
Ouais, on l'aime beaucoup en tout cas aussi. Très beau film à ne pas rater, je vous le dis, c'est mercredi au cinéma. Clovis Cornillac et Lilou Fogli sont nos invités aujourd'hui. Merci infiniment à tous les deux d'être passés nous voir pour nous parler de ce film qui porte très bien son titre. C'est magnifique. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
D'accord que c'est impossible.
En tout cas, c'est pas une jaunisse. Il y en a qui perdent leurs cheveux, lui, il perd ses couleurs.
Demain, il faudra que je pose les bonnes questions pour savoir qui je suis.
Mais c'est quoi ces fleurs? C'est magique. On la retrouvera peut-être, ta mère. Faut y croire.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé. On aura le plaisir de consacrer une partie de l'émission à Candice Renoir, le final de la saison 10, avec Cécile Bois, qui sera notre invitée exceptionnelle pour ce lundi de Pentecôte. Mais pas que, puisque nous aurons également la directrice de collection, Fabienne Facco, qui sera là également pour nous expliquer comment va évoluer la série. Et puis, nous aurons également le plaisir de vous parler aussi de l'album anniversaire des 10 ans des Stentors. Mathieu Sempéré, un des ténors des Stentors, sera avec nous et nous parlera de ce très bel album qui partira en tournée un peu partout en France et nous livrera d'ailleurs aussi quelques extraits pour notre plus grand plaisir. Vous l'avez compris, même lundi de Pentecôte, nous serons là et en inédit pour vous proposer encore une fois une belle émission de Chute, on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h. Pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude. Et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici. Volets battants, coulissants ou persiennes innovants. Fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici. Le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.